Pour la troisième année consécutive, votre émission littéraire vous propose ce soir le compte-rendu de la fête du livre d'Autun, la 16e du nom, qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier à l'hôtel de ville de l'ancienne Augusto Dunôme. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Pour son édition 2013, la fête du livre d'Autun avait retenu cette année le thème des chemins. Et ce sont bien les sentiers de la culture littéraire, entre autres, que nous vous invitons à emprunter chaque semaine depuis novembre 2010 à bord de Wagon Livre. L'an dernier, sachez quand même qu'à la fête du livre d'Autun, plus de 4000 livres se sont vendus. Oui, vous avez bien entendu, plus de 4000 livres. Radion étant partenaire de la fête du livre d'Autun, c'est avec un immense plaisir ce soir que nous vous proposons, ainsi que mercredi prochain, des interviews avec quelques-uns des éditeurs et auteurs présents. Aussi ce soir, jusqu'à 22h, nous donnerons la parole aux auteurs bouquignons, tandis que mercredi prochain, le 24 avril, nous vous proposerons des interviews d'écrivains d'envergure nationale. Et nous vous invitons à écouter tout d'abord le régional de l'étape. Il est l'un des piliers de cette fête du livre autinoise, puisqu'il en est un des créateurs. Il s'agit de Didier Cornaille, et nous lui avons demandé de nous présenter son dernier roman, intitulé « Le Prieuré », disponible aux presses de la Cité, un roman où il brosse un tableau un peu cynique des luttes qui agitent sporadiquement les communautés villageoises.
En l'occurrence, pour ce qui concerne le prieuré, c'est surtout ce constat de la capacité qu'ont les hommes, hommes au sens générique du terme, c'est-à-dire que les femmes sont aussi dans le coup, hein, cette propension qu'ont les hommes à savoir se monter des bisbilles entre eux absolument colossales sur des thèmes extrêmement futiles, qui existent en ville comme ailleurs, hein. Mais en ville ça se voit moins. Parce que ça se dilue dans la masse, pas mal. Mais c'est vrai que c'est assez caractéristique de ces villages qui ont tous des bagarres épouvantables, dont souvent on a oublié l'origine, dont on a oublié le thème, mais qui perdurent de génération en génération, où il y a des castes qui se font. Et là, autour d'une chapelle, dont on a fini par oublier à qui elle appartient d'ailleurs, tellement elle fait partie du décor. Mais on a tellement oublié de s'intéresser à la véritable propriété de cette chapelle que plus personne ne l'entretient. Jusqu'au jour où l'époux d'une nana qui est originaire du pays, lui il est parisien, c'est un architecte parisien, s'intéresse à cette chapelle, puis il gratte un petit peu et il s'aperçoit qu'il y a des fresques magnifiques, il y a une charpente 12e siècle, il y a des chapiteaux, etc. Et il cherche à mettre en valeur cette chapelle. Immédiatement, levée de bouclier, il y a les pros qui veulent valoriser la chapelle, l'idée du tourisme derrière, etc., bien sûr. Et puis il y a ceux qui disent, pas question, la chapelle, on y tient, elle est merveilleuse. Ils n'ont jamais fait le moindre centime d'entretien dessus, mais ils y tiennent, ils veulent que rien ne change, on veut sauver l'authenticité du pays. Ce qui veut rien dire d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et bagarre entre ces gens-là, manque de chance, cet architecte qui a redécouvert ses fresques, il est assassiné. Ce qui, évidemment, va tout de suite créer des pour et des contre aussi, hein. D'autant plus que un voisin, cousin d'ailleurs de ces gens-là, disparaît. Il s'enfuit apparemment. C'est un coupable tout désigné. Il se trouve qu'il n'est pas coupable. Mais je ne vais pas en dire plus parce que je ne dois pas révéler toute l'histoire tout de même, hein. Et c'est autour de ces bisbilles et de ces a priori qui s'installent comme ça. Et dont on s'aperçoit quelques temps après qu'ils ont changé, ils ne sont plus les mêmes. Hein. Et pourtant, les gens qui les défendent sont toujours très fermes. Ils maintiennent qu'ils ont toujours défendu ça. Et c'est pas vrai, ils ont changé de point de vue. Et je décortique tout ça à travers tout ce livre.
C'était Didier Cornaille pour Le Prieuré, son dernier roman, que vous trouverez chez vos libraires aux éditions des presses de la Cité. La fête du livre d'Autun, ce sont des éditeurs bourguignons invités, notamment les incontournables éditions de l'Armançon, mais il y avait également les éditions de Bourgogne, les éditions Bulles de Savon, les éditions du Chemin de Fer, les éditions Les Petits Platons, les éditions Mutines, les éditions Orphie, sans oublier Vendue Morvan et son équipe de bénévoles, parmi lesquels Pierre Léger. D'autres éditeurs que je n'ai pour l'instant pas cités, mais qui seront mis en valeur plus tard, étaient également présents. Et nous allons, si vous le voulez bien, faire connaissance avec une maison d'édition installée dans Lyon, non loin de Sens. Il s'agit des éditions de La Renarde Rouge que nous présente Hélène-Françoise Lafolie, auteure, illustratrice et cuisinière.
C'est une petite maison d'édition présidée par Joël Brière à Véron, à côté de Sens dans Lyon, qui
publie, existe en fait donc
depuis une vingtaine d'années et qui publie à peu près au moins cinq ouvrages par an.
Alors à l'heure actuelle, on est à combien de volumes ?
On approche de 100. Ça fait 20 ans que cette édition existe. Et ça marche bien. C'est des livres qui sont très appréciés, qui sont avec du très beau papier, des bons illustrateurs, des bons auteurs. Et c'est très agréable de faire un livre avec Joël Brière.
Alors, avec Joël Brière, vous signez... Hélène-Françoise Lafolie, un ouvrage qui a pour titre « Le dire avec des fleurs ». C'est un alpha-fleur. De quoi s'agit-il ?
C'est un... Donc, comme ça le dit bien, c'est un abécédaire... avec un petit texte, le premier étant l'anémone, le deuxième la bignonne, etc. Avec des fleurs assez simples, de chez nous en particulier... Et avec de très jolis poèmes de Joël Brière qui viennent à la suite de la peinture,
alors,
de l'aquarelle.
Vous avez un autre ouvrage entre les mains. L'auteur, c'est Clotilde Aubel.
Oui.
Un petit mot sur Mot de passe.
Alors, Mot de passe est un petit livre dans la petite collection que Clotilde a illustré avec des collages et avec des petits textes courts, et c'est un petit livre cadeau très 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 joli. Elle le dédicace d'une façon charmante et c'était très agréable de la côtoyer.
Si vous voulez suivre les pas de la Renarde Rouge, rendez-vous sur le site internet de cette maison d'édition, renarderouge.fr, pour y découvrir un séduisant catalogue. Paysan écrivain couronné par le prix littéraire du Morvan en 2011, ses romans sont des romans de terroir dont l'action se situe pour l'essentiel dans le Morvan. Il nous revient cette année avec son 8e livre qui a pour titre « La croisade de l'Albigeois ». Écoutons Jean-Charles Couny nous dévoiler l'intrigue de son dernier roman.
C'est l'histoire du maire d'un village qui est le principal employeur de la ville, mais qui est aussi le président du club de rugby dans Bourgogne, à la limite du Morvan, et qui fait venir un joueur d'Albi en espérant qu'il va apporter beaucoup à son équipe. Mais cette arrivée, se complique parce que ce joueur, d'une part, il touche la jante féminine, mais il n'a pas les résultats escomptés au niveau du football, ni au niveau du travail, ni au niveau du rugby, au niveau du travail. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il n'est peut-être pas venu uniquement pour ça. Voilà, mais ce n'est que le début de l'histoire.
Donc c'est la croisade de l'Albigeois, c'est encore la rencontre entre deux milieux. Déjà dans la Parisienne, il y avait la rencontre entre une famille de Parisiens, une jeune adolescente parisienne en rupture et en révolte contre le milieu bourgeois, et le paysan morvandio. Tu aimes bien comme ça rencontrer des univers, des milieux sociaux qui normalement ne devraient pas se croiser.
Mais peut-être que c'est un peu ma vie. Moi, je suis arrivé dans le Morvan, j'avais 18 ans. Peut-être que ça m'a marqué et que j'ai mis longtemps à m'intégrer. Maintenant, je me sens bien morvandio et peut-être que j'ai envie d'intégrer les gens. Je pense que le Morvan est comme ça, c'est-à-dire que c'est un pays qui est assez hostile au premier abord. Mais une fois qu'on est intégré, on peut plus s'en séparer. Si on est vraiment, comme moi, amoureux du Morvan, amoureux de son pays, moi, je le dis toujours, j'y resterai, à moins qu'on me mette dehors, qu'on m'exile, mais j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours.
Jean-Charles Couny, le paysan écrivain et rédacteur au magazine associatif Vent du Morvan, nous présentait son dernier roman, La croisade de l'Albigeois, aux éditions J2C. Toute l'actualité de notre ami Jean-Charles Couny sur son site en pianotant www.jeancharlescouny.com, Couny, s'orthographiant C-O-U-G-N-Y. Y. Nous marquons, si vous le voulez bien, une première pause musicale, et puisque les chemins ont servi de thème à la 16e fête du livre qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier à Autun, nous vous accompagnons en Afrique du Sud avec le Zoulou blanc Johnny Clegg, un titre qui annonce le reportage qui suivra, puisque nous évoquerons le séjour d'un mois en Afrique du Sud qu'a fait le photographe Laurent Janin en 2011 et dont il a ramené un beau carnet de voyage illustré de photos en noir et blanc et de textes. Alors, premier temps de pause avec Johnny Clegg, 60 ans cette année, et Assim Bonanga, une chanson de 1987 dédiée à Nelson Mandela. Bonne soirée sur Radion, vous écoutez Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Assim Bonanga,
Assim Bonanga Mandela Tina, la paix kona, la paix feli kona.
Assim
Bonanga Mandela Tina, la paix kona, la paix feli kona.
Maintenant que nous vous avons mis dans l'ambiance sud-africaine avec ce titre phare de Johnny Clegg, sorti en 1987 et dédié à Nelson Mandela, alors prisonnier du régime de l'apartheid, nous pouvons maintenant vous proposer le reportage enregistré à la fête du livre d'Autun les 6 et 7 avril dernier avec Laurent Janin. Laurent Janin parcourt le monde à la découverte de sa plus grande richesse, ses peuples. Il fait souvent le grand écart entre l'Amérique du Sud et l'Extrême-Orient sans pour autant négliger l'Europe et bien sûr la France. Un peu comme Max-Paul Fouché, dont on commémorera le 1er mai prochain le centenaire de la naissance, la photographie est le mode d'expression de Laurent Janin. Tous les ans, depuis 1999, il propose ses réalisations audiovisuelles et ses expositions, notamment à Autun, dans le cadre du photoclub autunois, dont il fut le président à une époque. Laurent Janin, aventurier infatigable, a quitté la Saône-et-Loire et Bourbon-Lancy, où il réside, pour se rendre en 2011 en Afrique du Sud. Et de ce séjour d'un mois dans ce pays, il en a rapporté un carnet de voyage intitulé « Un monde à part », mais par orthographié au pluriel avec un S final. Laurent Janin s'en explique au micro de Wagon Livre.
Donc c'est un jeu de mots qui n'est pas totalement gratuit parce que l'Afrique du Sud est ou était déjà considérée comme un monde à part sans S, parce qu'elle a été mise, c'est un pays qui a été mis au banc de la société internationale depuis des années du fait du régime d'apartheid. Mais pour moi, le S, c'était, je voulais aller là-bas en fait pour voir comment les gens vivaient 20 ans après la fin du régime d'apartheid. Comment les gens vivent ensemble, parce que 20 ans, ça fait quasiment une génération, donc des jeunes n'ont jamais connu ce régime. Et comment tout ça s'organise maintenant que la législation s'est assouplie, comment les gens vivent ensemble. Donc, le S laisse sous-entendre évidemment que il n'y a pas grand-chose de changé en apparence, parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même des blancs qui font la manche, qui sont maintenant dans des situations difficiles, des noirs qui ont un niveau de vie un peu plus élevé, mais je veux dire, les noirs vivent dans leur quartier, les blancs dans leur quartier, plus, j'allais dire, maintenant par habitude que par une ségrégation voulue, intentionnelle. Et au-delà de l'Afrique du Sud, qui est pour moi un prétexte pour aborder la question du vivre ensemble, parce que quand on regarde bien Soweto par rapport à Johannesburg, donc le township, le quartier noir de Soweto par rapport à Johannesburg, quelle différence y a-t-il entre la Courneuve et Paris, ou entre le monde rural et les grandes villes en France? Pas grand-chose, les gens ne communiquent pas. Il y a un vivre ensemble qui ne s'organise pas naturellement, comme s'il y avait un ordonnancement naturel qui fait que qui se ressemble s'assemble. Et je dirais que, est-ce que l'individu existe finalement? C'est là la question.
Est-ce que l'individu est écrasé par la communauté, ou est-ce qu'il réussit quand même à émerger au milieu du groupe auquel il appartient?
Ou est-ce que l'individu n'existe pas uniquement parce qu'il il appartient à un groupe, qu'il soit social, religieux, culturel, peu importe? Et ça, c'est vraiment important pour moi de c'est dépasser cette question de l'Afrique australe, en fait, parce que nos sociétés sont confrontées à des flux migratoires importants, donc qui posent des questions de coexistence, et on voit bien que c'est pas facile. Et le fait de dire tout le monde, un individu égale un individu, indifféremment, et que tout le monde peut se mélanger de façon indifférente, simplement parce qu'on se rencontre, c'est pas, à mon avis, c'est pas aussi facile que ça. Bon, la violence est principalement due aux différences de richesse, hein, parce que c'est vrai que le pouvoir économique est quand même essentiellement blanc, et ça, effectivement, c'est même dans nos sociétés, les tensions entre les quartiers très pauvres et très riches, ça crée de la tension et ça crée de la violence, hein, inévitablement. Mais pour reprendre cette question de séparation quasiment inévitable, prenons l'exemple, par exemple, la pratique religieuse. Les Noirs vont dans leurs églises parce qu'ils ont une pratique religieuse fondée sur le gospel. Les Blancs ont une pratique plus traditionnelle, telle que celle qu'on la connaît en Europe. Donc, fatalement, ils ne vont pas dans les mêmes églises pour faire leurs courses, par exemple. Les Blancs vont plus volontiers dans les grandes surfaces avec des caddies, et les Noirs, ils vont plus dans le commerce de proximité. Donc c'est plus les habitudes qui séparent les gens qu'une volonté intentionnelle, qu'un racisme, parce que c'est le mot à la mode maintenant, qu'un racisme latent, même si je ne m'estime pas que certaines personnes âgées, notamment parmi les Blancs qui ont connu le régime d'apartheid et qui soutenaient ce régime, sont toujours condescendants par rapport à par rapport aux Noirs. Hein, j'ai rencontré par exemple des personnes qui me disaient « Vous auriez dû venir là il y a 30 ans, maintenant notre pays ressemble plus à rien », des Blancs qui m'ont dit ça. Mais c'est pas la majorité, voilà, c'est pas du tout la majorité.
C'était Laurent Janin à propos de son carnet de voyage consacré à l'Afrique du Sud, un carnet de voyage qui a pour titre « Un monde à part ». Un monde à part peut se commander sur la boutique en ligne de Laurent Janin sur le www.diaventure.fr. Diaventure, s'orthographiant D-I-A-V-E-N-T-U-R-E. Vous aurez là aussi l'occasion et le plaisir de vous évader et de découvrir le travail et les photographies réalisées par Laurent Janin sur tous les continents. On s'engage maintenant sur les chemins de l'histoire avec Daniel-Henri Vincent. Daniel-Henri Vincent est l'ancien directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne. C'est un passionné d'histoire et notamment un passionné spécialiste de Bussy-Rabutin. Nous l'avons donc rencontré à la fête du livre d'Autun et bien évidemment, il nous a présenté le personnage pour lequel il se passionne depuis de très nombreuses années.
Alors d'abord, sa présence à Autun aujourd'hui, c'est pour rappeler qu'il est né en 1618 à quelques kilomètres d'Autun, d'Autun, au château des Piries, et il est mort à Autun en 1693. Donc c'est un peu la raison de ma présence ici et de la présence de Bussy. Bah, ce personnage est un personnage tout à fait fabuleux, extraordinaire, un libertin, mais sans se tromper sur le sens du mot libertin. C'est certain que Bussy était un homme avec une vie un peu agitée, mais c'était quand même pas le seul. Et c'est pas pour ça qu'on devrait s'en souvenir.
Alors, Daniel-Henri Vincent, peut-être pourriez-vous rappeler ce qu'est, dans les grandes lignes, un libertin au XVIIe siècle. C'est surtout quelqu'un qui se pose quand même comme à l'écart de toute croyance, et notamment à l'écart de la religion catholique à l'époque.
Voilà, c'est ça qui marque, dans les trois aspects de son libertinage, il y a le libertinage de mœurs que j'évoquais, mais il y a le libertinage philosophique ou religieux qui, pour Bussy en tous les cas, n'est pas un athéisme, c'est simplement un doute, c'est simplement l'expression d'une liberté de pensée consistant à dire « mais on me dit telle et telle chose, il faut croire telle et telle chose, mais pourquoi est-ce que je dois croire ça ? Je réfléchis, je pose des questions, je mets le doute, et en cela, il est très moderne. » Et puis, il y a encore une autre forme de libertinage, qui est celle d'une distance, pour ne pas dire d'une opposition, mais en tous les cas, d'une distance vis-à-vis de l'autorité royale, et de Louis XIV en particulier, c'est ça qui lui coûte d'ailleurs le plus cher, c'est-à-dire l'exil.
Alors, vous avez fait paraître aux éditions Perrin une biographie intitulée « Bussy-Rabutin, le libertin puni ». Bien sûr, quand on parle de lui, on pense aussi au château qui porte son nom. Il y a eu, et il a écrit, des contes extrêmement osés qui lui ont valu quand même l'exil et le bannissement et l'ennui quand même à Bussy-Rabutin.
Oui, alors, bon, d'abord, s'agissant de son exil, c'est vrai que la cause directe et immédiate, c'est la publication de son roman, entre guillemets, qui s'appelle « L'histoire amoureuse des Gaules », dans laquelle il raconte un certain nombre de revers, d'arrière de décor du siècle de Louis XIV qui est très éloigné de la noble ordonnance des jardins de Lenôtre.
Mais des gens s'y reconnaissent.
Alors, non seulement les gens s'y reconnaissent, mais les pseudonymes sur lesquels les personnages sont décrits sont transparents, tout le monde les reconnaît. Et donc, mais il ne s'agit pas du tout d'une mise en cause de la famille royale, il s'agit bien des frasques de personnages à la cour que tout le monde connaissait. Je veux dire, Bussy n'apprend rien. Il raconte avec l'esprit, avec la médisance qui le caractérise. Et c'est ça qui déclenche son exil, j'allais dire, d'une façon évidente, immédiate. Mais ce n'est pas le fondement réel. Le fondement, c'est que dans cette histoire, il raconte notamment une fameuse débauche qu'on appelle la débauche de Roissy, où là, il s'agit d'élever en une dévotion, je dis bien une dévotion, certaines pratiques entre des personnages du même sexe, pour dire les choses très clairement, et c'est pas le fait que ce soit des personnes du même sexe, c'est qu'on dise que ça c'est une dévotion et de faire une parodie des dévots. Et on sait qu'à l'époque on condamnait Molière et qu'on a fait interdire le Tartuffe. C'est exactement la même époque.
En attendant le quatrième centenaire de la naissance de Bussy-Rabutin, c'est-à-dire en 2018, Daniel-Henri Vincent, vous restez tout de même très actif, puisque c'est vous qui avez établi et présenté les mémoires du comte de Bussy-Rabutin qui sont publiées, s'il vous plaît, aux éditions du Mercure de France, c'est-à-dire finalement chez Gallimard. Enfin, c'est une filiale de Gallimard.
Oui, et indépendamment de son rattachement juridique, et c'est quand même une des plus anciennes maisons d'édition françaises, et la collection Le Temps Retrouvé, c'est un peu l'équivalent de la Pléiade pour la littérature. Bon, et je suis évidemment, inutile de vous dire, enchanté de ce que Isabelle Gallimard ait bien voulu publier, les mémoires de Bussy, et Antoine Debecq, qui est le directeur de la collection, ait bien voulu publier les mémoires, qui en valent la peine. honnêtement, qui en valent la peine parce que Bussy se raconte avec beaucoup de liberté. Il se raconte et il raconte les autres, il raconte la vie et on peut dire que c'est une sorte de promenade que l'on fait en lisant ses mémoires, une sorte de promenade que l'on fait au grand siècle, depuis la fin du règne de Louis XIII jusqu'au règne personnel de Louis XIV. Et c'est un dépaysement absolument extraordinaire et c'est une lecture tellement agréable.
Impossible de nous séparer sans évoquer la publication très prochaine en CD de textes de Bussy-Rabutin, donc c'est chez Frémaux et Associés, bien connu, des textes lus par un de vos amis, Marcel Bozonnet, ancien sociétaire et administrateur de la Comédie-Française.
Oui, on peut, plus de 300 ans après, grâce à Marcel Bozonnet, qui sait, en tant qu'ancien sociétaire de la Comédie-Française, parfaitement lire, dire, évoquer la langue du XVIIe siècle, qui est une langue merveilleuse. Je crois que le français atteignait un sommet de beauté et de clarté au XVIIe siècle. Donc on peut maintenant effectivement entendre Bussy-Rabutin en trois CD, un relatif aux mémoires, le second relatif à la correspondance, notamment avec celle de sa cousine la plus célèbre, la marquise de Sévigné, oui, bien sûr. Et puis le troisième CD sur les textes moins connus de Bussy, dont son histoire amoureuse des Gaules.
Bussy-Rabutin, le libertin puni aux éditions Perrin et signé de Daniel-Henri Vincent. Et nous allons nous séparer maintenant le temps d'une nouvelle pause musicale. On se retrouve dans une poignée de minutes et notamment avec notre libraire partenaire, Evelyne Levallois de la librairie L'Autre Monde à Avallon. Tout de suite, Zazie, Je suis un homme. Excellente soirée sur Radion. Vous écoutez Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour le compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion, à la guerre en toute saison, moi je tourne en rond.
La suite de Wagon Livre, ce soir consacrée au compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun. Mais avant de retrouver les reportages, et bien comme chaque semaine sur Radion, le moment est venu d'accueillir devant notre micro notre fidèle Evelyne Levallois, pour le coup de cœur de la semaine, coup de cœur de la librairie L'Autre Monde à Avallon. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
Alors quel est le coup de cœur de la semaine ?
Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin, sous-titré Compostelle malgré moi, aux éditions Guérin, petite maison d'édition spécialisée dans la montagne, assise du côté de Chamonix, qui nous offre un récit qui n'a rien à voir, qui est un récit de randonnée à Compostelle. Ruffin, grand diplomate, membre de l'Académie française, auteur à succès, il avait écrit notamment Rouge Brésil et Le Grand Cœur, pour lequel, Yannick, je sais, tu avais reçu justement Jean-Christophe Ruffin.
C'est vrai.
Donc quand Ruffin envisage de faire le chemin de Compostelle, il pense solitude, dénuement, recueillement. En fait, il va découvrir ce que lui-même écrit, un réseau, une confrérie, une internationale. Et avec beaucoup, beaucoup d'humour, Ruffin nous raconte ses surprises, ses bonheurs et ses petits malheurs. Est-ce que, par exemple, tu savais que Compostelle est l'un des lieux de drague préférés des quarantenaires et des cinquantenaires?
Ah non, j'ignorais, mais je suis dans la tranche d'âge, donc je vais prendre rapidement un billet pour Compostelle.
Est-ce que tu savais qu'il faut finir son café 2 bonnes heures avant le départ, sous peine de devoir finir dans les buissons au bout d'une petite demi-heure?
Ah, ça...
Voilà, hein.
Prudence.
Que les jaquets, comme on les appelle, ne parlent que de leurs pieds, et que de l'endroit d'où ils sont partis, et que cet endroit, d'où l'on part, détermine la place dans la hiérarchie assez subtile et très complexe des cheminots de Compostelle. Donc avec beaucoup, beaucoup d'autodérision, et une autodérision vraiment très rafraîchissante pour nous lecteurs, Ruffin se met en scène, il nous raconte l'histoire d'un type qui veut faire Compostelle parce que c'est à la mode, et parce qu'il veut oublier qui il est, ce grand diplomate, ce grand écrivain, voilà. Il
grand
veut,
académicien, oui.
Voilà, tout ça, il veut oublier un peu tout ça, et il veut se retrouver. Et paradoxalement, en fait, Ruffin nous raconte l'histoire d'un type qui a mal aux pieds, qui a le plus grand mal à repousser les avances d'une charmante autrichienne un peu âgée, qui n'aime pas les hôtelleries pour pèlerins parce que tout le monde ronfle là-dedans et que ça sent les pieds. Donc c'est le portrait de soi en randonneur présomptueux qui apprend peu à peu l'humilité. Et c'est le portrait du chemin de Compostelle en piège à touristes qui cherche l'exotisme absolu de la randonnée et qui vont y trouver un autre exotisme, qui est l'exotisme de l'intérieur de
oui.
soi.
Voilà. Une sorte de démarche aussi spirituelle.
Voilà. Et c'est un récit tout en paradoxe, hein, puisque Compostelle est à la fois le piège à touristes et en même temps toujours ce chemin intérieur. Et Ruffin est à la fois ce grand diplomate et aussi ce type qui a mal aux pieds, quoi, qui n'arrête pas de geindre tout le temps. Donc malgré ce qu'est devenu Compostelle, le chemin continue de remplir sa fonction et connaît d'autant plus de succès. Donc c'est tout le paradoxe de Compostelle et de Ruffin, digne représentant ici de chacun d'entre nous, à la fois humble et présomptueux. Donc derrière ce récit humoristique, c'est aussi un récit philosophique, un peu à la Jacques le Fataliste de Diderot. Pour ça que pour moi c'est un grand livre, derrière des atours assez faciles d'accès et assez drôles.
Et je suis d'autant plus content que tu aies retenu ce titre parce que le thème retenu pour la 16e fête du livre d'Autun, c'était le thème des chemins. Donc, Immortelle randonnée, sous-titré Compostelle malgré moi de Jean-Christophe Ruffin, je pense que cela s'harmonisait complètement avec le thème de la fête du livre. Bravo Evelyne et merci pour cette présentation. Un petit point, comme chaque semaine, sur les meilleures ventes.
On est très content à la librairie de voir que les clients aiment et toujours l'homme qui savait la langue des serpents, qui est notre meilleure vente, hein, Andrew Skivirak aux éditions Attila. La deuxième meilleure vente est L'humanité disparaîtra, bon débarras d'Yves Pacalet, édition revue et aggravée, comme le dit la bande, hein, sur la crise écologique. Ensuite, on vend toujours très bien Le Demain de Guillaume Musso. Ensuite, Avallon, mémoire en images, les 2 volumes de Robert Auclair qui viennent de ressortir aux éditions Alan Sutton et qui sont de nouveau donc disponibles et qui reconnaissent à nouveau les faveurs des Avalonnais. Et puis ben, notre dernière meilleure vente, c'est Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin dont on vient de parler.
Merci Evelyne pour toutes ces précisions. On te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau coup de cœur. Je rappelle d'ailleurs à celles et ceux qui nous écoutent que le coup de cœur apparaîtra sur le réseau social, hein, Facebook Wagon Livre Yannick Petit. On peut retrouver bien évidemment la référence de l'ouvrage que tu nous as présenté ce soir. et bien sûr, émission disponible en podcast d'ici quelques jours sur le site internet de Radion. Bonsoir Evelyne et merci.
Bonsoir.
On continue notre compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun, dont on vous propose ce soir un compte-rendu. Et je vous propose de vous intéresser aux éditions universitaires de Dijon, que nous présente son responsable commercial, Dominique Vautier.
Les éditions universitaires de Dijon sont l'entité éditrice de l'Université de Bourgogne depuis 1928. Elles ont connu plusieurs remaniements, dont le plus important date de 2000, où nous sommes rentrés dans le groupe AFQ Diffusion, qui regroupe 26 éditeurs universitaires français parmi les plus importants, comme les presses universitaires de Rennes, qui nous permettent d'avoir une diffusion professionnelle nationale et internationale via le réseau de Gallimard Export aussi.
Parfait. Bien évidemment, ces éditions universitaires de Dijon sont pluridisciplinaires. J'ai vu de très beaux ouvrages richement illustrés sur l'archéologie, sur les civilisations celtes. Il y a de très très beaux manuels, des essais littéraires sur Jean Genet, des thématiques extrêmement diverses. Est-ce que vous pouvez un peu situer tous les domaines que couvrent ces éditions universitaires de Dijon? Enfin, vous allez peut-être en oublier, mais au moins les principaux.
Ben, en fait, comme l'Université de Bourgogne est elle-même pluridisciplinaire, notre maison d'édition fonctionne sur tous les grands domaines du savoir. Donc effectivement, en particulier sur tout ce qui est sciences humaines et sociales, littérature, qui sont les domaines qui se prêtent le mieux aux ouvrages papier, on va dire. Mais on publie à côté de ça aussi des ouvrages de sciences dures, quelques-uns aussi, et des ouvrages effectivement d'archéologie, voilà. Et on couvre effectivement l'ensemble des champs disciplinaires universitaires.
Combien de publications par année ?
On est actuellement à une trentaine d'ouvrages publiés par an.
Alors 50% des auteurs que vous publiez aux éditions universitaires de Dijon sont des auteurs extérieurs à l'université de Dijon.
Oui, tout à fait. Nous sommes entièrement ouverts aux propositions d'enseignants-chercheurs ou de travaux universitaires qui viennent d'extérieurs à Dijon et à la Bourgogne. Et donc des grands universitaires parisiens publient aussi chez nous. Et également de l'étranger, on a publié l'année dernière un ouvrage qui nous avait été proposé par l'université de Kyoto au Japon.
Rappelons donc actuellement à votre catalogue 380 titres. Et alors, parmi les nouveautés, une thématique intéressante, parce que nous sommes tous condamnés à vieillir. Il y a notamment un directeur de maison de retraite qui nous promet un ouvrage sur l'image de la vieillesse dans la France contemporaine.
Voilà, c'est ça. C'est un ouvrage qui est issu d'une thèse en sciences sociales qui a été faite par Yannick Sauveur. Qui est effectivement parallèlement directeur d'une maison de retraite, donc c'est vraiment quelqu'un qui est sur le terrain et qui propose ici un ouvrage au travers du remaniement de sa thèse, un ouvrage assez polémique qui dénonce un petit peu effectivement l'image qu'on peut avoir aujourd'hui de la vieillesse dans la France.
Alors, tout autre sujet, les médias souvent soulignent combien le niveau d'orthographe ou d'expression écrite baisse de manière inquiétante chez nos élèves. J'entendais même dire récemment que le modèle scolaire français ne permettait pas vraiment aux élèves d'avoir confiance en eux. Eh bien, les éditions universitaires de Dijon ont peut-être trouvé la réponse pédagogique, didactique aux difficultés qu'éprouvent même des bacheliers à l'entrée des études supérieures.
Oui, effectivement, ce sont plusieurs collègues de l'Université de Bourgogne qui, sans doute en constatant la baisse du niveau des écrits des étudiants, ont proposé un manuel sur la maîtrise de l'écrit dans les études supérieures en lettres modernes. Donc c'est un manuel de 230 pages qui reprend à peu près tous les niveaux de difficulté et qui sera proposé à l'ensemble des étudiants de lettres modernes à partir de septembre 2013.
C'était Philippe Vautier et non Dominique Vautier, comme je l'ai dit précédemment, et je m'en excuse. C'était donc bien Philippe Vautier pour les éditions universitaires de Dijon, des éditions qui se consacrent à la diffusion et à la valorisation de la recherche. Pour encore mieux connaître cette maison d'édition et découvrir son riche catalogue, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet des éditions universitaires de Dijon en pianotant eud.u-bourgogne.fr. On rappellera que la prochaine publication des éditions universitaires de Dijon aura pour titre « Images de la vieillesse dans la France contemporaine » et c'est un essai signé de Yannick Sauveur. Nouvel intermède musical et on se retrouve pour la suite du compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun. Tout de suite, pour votre plus grand plaisir, j'espère, voici M, l'onde sensuelle.
J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre? Onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Sens si romantique m'ont troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes. Je te rends un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel.
La suite du compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun, consacrée ce soir aux auteurs bourguignons. Une petite information concernant une conférence et une présentation d'ouvrage qui aura lieu le vendredi 19 avril prochain à partir de 20h à la ferme de la Fosse d'Yonne. C'est à Tonnerre, bien sûr. Françoise Vignier, conservateur général du patrimoine, est l'invitée de la librairie Plume et Images, donc à la ferme de la Fosse d'Yonne, pour présenter son dernier ouvrage intitulé « Château en terre bourguignonne » paru aux éditions de l'Escargot Savant. C'est ce vendredi 19 avril à partir de 20h à la ferme de la Fosse d'Yonne à Tonnerre. Réservation et renseignements au 03 86 55 00 46. Parmi les éditeurs bourguignons présents, signalons à la fête du livre d'Autun les éditions de Bourgogne. Le petit dernier dans la collection patrimoine a pour titre « La Bourgogne, la nuit, mystère, fantasme et réalité ». L'ouvrage est signé d'un ancien journaliste du bien public, Claude Lougnot, qui nous présente le fruit de ses recherches et de son passionnant travail sur la nuit en Bourgogne.
Ce livre n'est pas qu'une collection de légendes, de mystères. Le fondement se trouve dans la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire de la nuit depuis l'origine donc de l'écriture, parce qu'on peut se faire historien à partir du moment où il y a des documents écrits, et les documents écrits ont été initialisés par les moines en Bourgogne. Donc, l'histoire commence en fait à Cluny, au 10e, 11e siècle, et se termine, bon, c'est une volonté, parce qu'autrement, au lieu de 200 pages, j'en aurais écrit 1000, se termine à l'aube des temps modernes, lorsque l'éclairage nocturne a été vaincu dans les villes par la démocratisation de la fée électricité. Donc, évidemment, à partir du mot fée, on rebondit sur les histoires et légendes, et ce livre couvre à la fois le réel et l'imaginaire de la Bourgogne la nuit.
Alors la quatrième de couverture dit que l'auteur nous entraîne dans une fantastique série de récits extraordinaires puisés aux meilleures sources où il est bien difficile de faire la part de l'imaginaire et de la réalité. La nuit, effectivement, c'est le moment de toutes les craintes, mais de toutes les excitations.
C'est une période extrêmement ambiguë, parce que c'est une période de repos. Par définition, la nuit, il ne se passe rien puisqu'on dort. Quand j'ai commencé la rédaction de ce livre, mes amis me demandent gentiment, vous travaillez, enfin tu travailles sur quoi? Je dis, je travaille sur une histoire de la nuit en Bourgogne. Et là, il y a comme un point d'interrogation qui se dresse sur la tête de l'ami en question. Il dit, mais la nuit, il se passe rien. Eh bien si, ce livre est la preuve que la nuit, il se passe plein de choses, mais encore faut-il être initié à ces choses-là.
On rappellera le titre de l'ouvrage de Claude Lougnot, La Bourgogne la nuit, mystère, fantasme et réalité, de la Bourgogne des monastères où la nuit charrie son cortège de visions et de fantasmes, à la Bourgogne mystérieuse des forêts et des étangs où légendes et sortilèges prolifèrent. L'auteur, Claude Lougnot, donc, nous entraîne dans une fantastique série de récits extraordinaires puisés aux meilleures sources où il est bien difficile de faire la part de l'imaginaire et de la réalité. Il nous fait revisiter la Noël, la Chandeleur, les Brandons d'antan et bien d'autres coutumes locales. C'est un ouvrage disponible aux éditions de Bourgogne. Autre temps fort, à la fête du livre d'Autun au stand des éditions de Bourgogne, c'était aussi la parution d'un livre d'entretien avec le maire d'Autun, Rémi Rebérotte, des entretiens regroupés sous le titre « Autun passionnément ». Plus d'informations sur le site internet des éditions de Bourgogne, sur le www.éditions-de-bourgogne.com. Rencontre cette fois-ci avec un sculpteur autunois, Bernard Moreau-Gaudry, que le prix littéraire du Morvan a distingué l'an dernier pour son roman médiéval « La tentation d'Ève ». Alors passionné par l'histoire industrielle de sa ville, Bernard Moreau-Gaudry a publié l'an dernier « Patrimoine industriel d'Autun » en collaboration avec la photographe Danielle Thévenin. Et il nous revient ce printemps avec un autre livre intitulé « Sculpteurs et plasticiens du XXIe siècle ». C'est le tome 2 qu'il présentait à la 16e fête du livre d'Autun, une fête du livre au cours de laquelle se vendent des milliers de livres. Voici donc Bernard Moreau-Gaudry qui nous présente le tome 2 de Sculpteurs et plasticiens du XXIe siècle.
Donc il y avait un premier tome qui était sorti il y a 8 ans, avec une centaine de sculpteurs, donc on refait la même chose avec des noms différents, de nouveaux artistes et de nouvelles œuvres. Voilà, et donc ça représente un panorama de la sculpture contemporaine qui est très diverse, très varié, avec des techniques complètement différentes.
Alors, ce qui est très agréable aussi, même si on n'est pas spécialement professionnel ou connaisseur, c'est que grâce aux photographies, des œuvres, des sculptures, de quelques matières que ce soit, c'est un livre extrêmement attrayant et divertissant.
Ben, on a essayé de faire un beau livre, quoi, de faire un livre d'art. Les sculptures sont belles, mais il fallait que l'édition soit à la hauteur des œuvres présentées.
Alors, qui de manière préférentielle, va acheter ce tome 2 intitulé, je le répète, « Sculpteurs et plasticiens du XXIe siècle » Des professionnels déjà, des étudiants en art?
Des professionnels, des étudiants en art, des amateurs. Il y a beaucoup de gens qui font des petits ateliers de sculpture, qui se mettent à la terre, qui essayent de créer des œuvres, et donc ça les intéresse.
Alors, Bernard Moreau-Gaudry, bien sûr, il y a l'écrivain, La tentation d'Ève, hein, vous reveniez sur le destin de Gisle Bertus, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui en tout cas a un lien très fort avec Autun et notamment sa superbe cathédrale Saint-Lazare.
Oui, c'est Gislibertus qui est le grand sculpteur du Moyen-Âge, quoi, et le seul qui soit connu.
Alors, Bernard Moreau-Gaudry, être artiste au XXIe siècle, ça n'a plus rien à voir avec l'artiste misérable, miséreux, qui vivait dans sa soupente dans la seconde moitié du XIXe siècle, ou Camille Claudel, qui finit à moitié folle dans un hospice.
Ah si, il y en a, si, la moitié des artistes sont en grande difficulté matérielle. En
précarisation d'une profession. Quand on est artiste, c'est un métier ou c'est une identité?
C'est un métier, c'est aussi une identité, mais c'est très difficile. Et c'est un métier qui est très aléatoire. La plupart des sculpteurs travaillent dans le domaine public, ils font du monumental, ils font des grandes pièces, et il faut les vendre. Il n'y a pas des commandes tous les jours. Et alors parfois, il y a une commande tous les 3 ans qui permet de vivoter pendant 2 ans.
Bernard Moreau-Gaudry à notre micro pour le tome 2 de Sculpteurs et plasticiens du XXIe siècle. Il termine par ailleurs un nouveau roman qui aura pour titre La Sauvagère. On quitte la sculpture et l'écriture momentanément pour une pause musicale. Voici Laurent Voulzy, C'était déjà toi. C'était déjà toi, Laurent Voulzy, à l'instant sur Radion. La suite et bientôt la fin du compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun. Parmi les éditeurs bourguignons présents les 6 et 7 avril dernier à l'hôtel de ville d'Autun, on mentionnera la présence des éditions de l'Escargot Savant, avec des auteurs présents à son stand. On mentionnera Alain de Certaines, qui a fait paraître aux éditions de l'Escargot Savant, bien évidemment, Chemins oubliés en pays bourguignon. On mentionnera aussi Braconnier au cœur du Morvan, une série d'histoires autour du thème du braconnage sous la plume d'Odette Vado. Et nous allons nous arrêter, puisque la thématique de la fête du livre d'Autun cette année était celle des chemins, eh bien nous allons nous promener en Nièvre avec Philippe Ménager, qui vient de faire paraître Sites et monuments remarquables de la Nièvre. On l'avait d'ailleurs rencontré l'année dernière pour un Sites et monuments remarquables de Côte d'Or. Il ne lui reste plus qu'à publier Sites et monuments remarquables de Lyon, mais ça sera pour vraisemblablement 2014 ou 2015. En tout cas, Philippe Ménager, de formation d'historien, est un passionné, comme il nous l'explique. Il va sur le terrain, fait lui-même les photos qui vont illustrer son ouvrage, et il nous confie ses bonheurs à préparer ses livres pour les éditions de l'Escargot Savant.
C'est la grande satisfaction de la réalisation de ces ouvrages, c'est qu'à chaque fois, moi-même, je pars à l'exploration d'un territoire et que je n'en reviens jamais sans quelque chose d'exceptionnel dans les bagages. On a dans la Nièvre une très grande variété de sites naturels, d'ouvrages de génie civil, d'ouvrages religieux, de châteaux, de villages anciens, et c'est toujours un plaisir d'essayer de faire partager au plus grand nombre, eh bien, cette passion pour le patrimoine, en leur offrant un guide qui est à la fois l'invitation à aller sur le terrain et le souvenir de ce qu'ils auront vu sur le terrain.
Puis vous aimez aussi, Philippe Ménager, mettre en valeur la faune et la flore, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pages consacrées à la nature, au jardin, au parc. Vous ne négligez rien des richesses des départements.
Il serait inconcevable que l'on n'appréhende pas l'aspect naturel du patrimoine d'un département. La Nièvre, on pense immédiatement par exemple au bord de Loire, du côté de Pouilly-sur-Loire. C'est une zone qui est protégée au niveau national pour ses îles, pour la faune et la flore qui s'y trouvent. Donc, évidemment, il faut expliquer comment naissent ces mécanismes. Même chose lorsque l'on aborde le Bec d'Allier. C'est un lieu qui est magnifique, où on peut croiser des aigrettes garzettes, des hérons, etc. Ou même, eh bien, les marécages tourbeux du Nivernais, du Morvan, tout au moins. Sont des lieux formidables qui font également partie intégrante du patrimoine, au même titre que le sont les églises, les châteaux, etc.
Sites et monuments remarquables de la Nièvre, c'est aux éditions de l'Escargot Savant, et c'est un ouvrage de Philippe Ménager que vous venez d'entendre à l'instant sur Radion. C'est la fin de ce compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 24 avril à 21h, pour une deuxième et dernière partie de compte-rendu de cette belle fête du livre qui est un grand rendez-vous en Bourgogne. La semaine prochaine, vous pourrez entendre des auteurs d'envergure nationale, parmi lesquels la jeune romancière Alma Brami, qui vient de faire paraître aux éditions Plon son dernier roman intitulé Lolo. Mais nous aurons aussi le bonheur de vous proposer un entretien avec l'actuel président du Conseil constitutionnel, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Je veux parler de Jean-Louis Debré, qui est l'auteur, avec Valérie Bochnek, d'un ouvrage paru chez Fayard et qui a pour titre « Ces femmes qui ont réveillé la France ». Et puis nous aurons aussi le plaisir de vous proposer un entretien avec Jean-François Kahn. Rendez-vous donc mercredi prochain pour la deuxième partie du compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun, qui a retenu cette année le thème des chemins. Et puis je vous rappelle, vendredi 19 avril prochain à 20h à Tonnerre, à la ferme de la Fosse d'Yonne, vous pouvez assister à la présentation de l'ouvrage de Françoise Vignier, Château en terre bourguignonne. Françoise Vignier, qui est conservateur général du patrimoine et dont le livre est disponible aux éditions de l'Escargot Savant. Renseignements auprès de la librairie Plume et Images de Tonnerre au 03 86 50 00 46. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre.